Alors bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, vous l'avez sur le tableau, donc la question est la suivante. L'Église catholique est-elle une invention humaine ou une fondation divine? C'est une question évidemment très importante, surtout à notre époque où il y a tellement de religions, prétendues religions même dites chrétiennes, que l'on se demande, enfin on peut se demander, si Jésus-Christ a vraiment voulu fonder une Église. Ou alors si simplement il a révélé certaines choses qui se transmettent comme on veut, dans lesquelles on puise selon notre goût. Évidemment, si la réponse à cette question nous dit que vraiment l'Église est fondée par Jésus-Christ, eh bien la conclusion nécessaire et évidente sera que cette Église est la seule véritable et la seule possible pour le salut des âmes. Alors pour essayer de répondre à cette question, on va procéder par plusieurs points. Tout d'abord, on va voir ce que Jésus-Christ lui-même a fait durant sa vie publique. On va voir si lui-même a voulu, en quelque sorte, fonder déjà son Église, lui donner des bases, lui donner ses principes généraux. Ensuite, on va voir, après Jésus-Christ, dans les premiers temps du christianisme, de quelle manière cette Église, s'il y en a une, s'est développée. Ensuite, on pourra s'arrêter sur les notes, les caractères qui manifestent la divinité de cette Église. Et enfin, suivant le temps qu'il reste, on pourra encore un petit peu voir si cette Église va durer jusqu'à la fin des temps et puis de quelle manière. Alors, tout d'abord, la première question, c'est de voir ce que Jésus-Christ a fait. Alors, rien que ce premier point pourrait suffire pour une seule conférence, alors on va être bien sûr très synthétique. Si l'on regarde les évangiles, la vie de Jésus-Christ, on voit qu'à partir du début de sa vie publique, vers l'âge de 30 ans, Jésus-Christ très rapidement se choisit des disciples. C'est un premier point à noter. Il y a beaucoup de gens qui l'entendent, qui l'écoutent, qui le suivent, quelquefois 4 000-5 000 personnes ou plus, comme par exemple lors des multiplications des pains. Mais parmi ces foules, Jésus-Christ très rapidement va choisir certains sujets auxquels il va faire des promesses spéciales. Certains d'entre eux vont même avoir leur nom changé par Jésus-Christ, qui signifie qu'ils auront une fonction particulière. Parmi même ses disciples, Jésus-Christ va les distinguer entre eux. Il y en aura certains qui auront une prééminence sur d'autres. Et donc, cela nous montre déjà que dès l'origine, Jésus-Christ a voulu donner, si l'on peut dire, une autorité à sa future Église. Et dès l'origine, il a voulu choisir des hommes qui aurait une fonction particulière dans cette Église. Alors, pour illustrer cela, il y a bien sûr très souvent cette référence aux 12, ces 12 disciples qui seront ensuite les 12 apôtres, 12 colonnes de l'Église. Plusieurs fois dans les évangiles, on trouve la liste de ces 12 apôtres. On voit aussi en certains passages à quel moment ils ont été appelés, à quel moment ils ont eu leur vocation. Cela se fait souvent de manière très simple. Jésus-Christ dit simplement, viens, suis-moi. Et la personne concernée abandonne tout et suit Jésus. Plus tard, Jésus-Christ va leur dire à certains, vous serez pêcheurs d'hommes désormais. Donc là aussi, une mission qui se profile. De plus, on voit que parmi ceux-ci, il y en a un qui a une place toute particulière, c'est Saint-Pierre. Très vite, lorsqu'il y a quelque chose de particulier à accomplir ou bien une réponse à donner, c'est souvent Saint-Pierre qui agit ou qui prend la parole. De plus, dans les listes des 12 apôtres, Saint-Pierre est en général, même toujours, placé le premier. De plus, toujours Saint-Pierre, au début s'appelait Simon et son nom est changé. Et en Matthieu 16,16, Jésus-Christ va préciser le sens de ce nouveau nom. Donc tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc nous voyons toute une hiérarchie déjà du temps de la vie publique de Jésus qui se met en place par Jésus-Christ lui-même. À côté de ces 12 apôtres, on nous parle encore des 72 disciples qui sont aussi choisis par Jésus-Christ, mais qui ont, disons, une fonction un petit peu moins importante. Et puis encore quantité d'autres qui suivent Jésus-Christ de manière plus ou moins prochaine. Donc là, c'est déjà un premier élément important. On pourrait donner beaucoup de références dans l'Écriture sainte, mais elles sont tellement faciles à trouver et tellement fréquentes que ce n'est pas nécessaire de faire une longue liste. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est donc cette volonté qu'a Jésus-Christ de choisir certains hommes auxquels il annonce qu'ils auront à pêcher d'autres hommes, auxquels il annonce bientôt qu'ils devront prêcher, qu'ils devront donner des grâces, qu'ils recevront certains pouvoirs. Par exemple, on les voit déjà du temps de la vie de Jésus chasser les démons, et ainsi de suite. Voilà ce premier élément, donc, Jésus-Christ qui donne les bases de son Église, avec déjà une hiérarchie. Tous ne sont pas égaux, et ce n'est pas en fonction forcément de leur sainteté ou de leur vertu, mais c'est en fonction de la mission qu'ils auront plus tard. On le voit, Saint Jean, qui était le disciple préféré, n'est pourtant pas choisi comme chef de l'Église. Après la résurrection de Jésus-Christ, il va encore préciser de manière définitive, donc tout particulièrement le pouvoir de Saint Pierre. Il y a ce passage très célèbre en Saint Jean 21:15-17, où Saint Pierre entend ces paroles de Jésus-Christ, « Pierre, m'aimes-tu ?» donc répété à trois fois, et Jésus-Christ, ayant une réponse affirmative de Saint-Pierre, lui dit, « Eh bien, paix mes agneaux, paix mes brebis. » C'est la confirmation des promesses qui ont été faites à Saint-Pierre avant la Passion, qu'il serait Pierre, que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre lui, contre l'Église fondée sur lui. De plus, Jésus-Christ ne dit pas trois fois, « Paix mes agneaux », mais il dit, « Paix mes agneaux » et « Paix mes brebis ». Ces deux appellations différentes, d'après les pères de l'Église, manifestent certainement que Saint-Pierre est non seulement au-dessus du commun des chrétiens, mais en plus au-dessus des chefs des chrétiens. Donc Saint-Pierre a une prééminence même sur les autres chefs, donc sur les prêtres et les évêques. Nous voyons là aussi cette hiérarchie qui se met en place. Ensuite, après la Pentecôte, Jésus-Christ n'est plus sur terre de manière visible. Donc là, c'est vraiment les apôtres qui doivent développer tous les principes, toute la structure que Jésus-Christ a donnée à son Église. Et on le voit très vite, les actes des apôtres sont très intéressants pour cela, ainsi que les épîtres de saint Paul. On le voit très vite que les apôtres, partant en mission, cherchent à transmettre leur pouvoir. Donc, il y a besoin de chefs pour l'Église, non seulement dans les premiers temps, mais évidemment jusqu'à la fin du monde. Si au temps de Jésus-Christ, il y avait déjà besoin de chefs, eh bien, à plus forte raison, à mesure que l'on s'éloigne de la fondation de l'Église, car il y a plus de risques d'hérésie ou d'attaque ou de persécution. Alors, très vite, les apôtres partent en mission aux quatre coins du monde connu. Et lorsqu'ils arrivent dans une ville, ils commencent à prêcher. Et après un certain temps, lorsque les chrétiens, les nouveaux chrétiens sont assez instruits, on voit les apôtres choisir les plus dignes parmi eux pour être élevés, justement, à cette fonction du gouvernement, du sacerdoce, tout simplement. Il y a des références en différents endroits, par exemple, dans les Actes des Apôtres 14:22, où on nous dit que les apôtres priaient, jeûnaient et ensuite instituaient des anciens. Donc ils avaient fondé une chrétienté dans telle ou telle ville, et devant partir plus loin, ils choisissaient un ou plusieurs chefs, toujours avec cette hiérarchie, les évêques, les prêtres, pour pouvoir continuer leur mission. Donc dans les Actes des Apôtres, on a plusieurs éléments. Ils leur imposent les mains, transmettant leur pouvoir. Et par exemple aussi saint Paul, qui parle à Tite, l'un de ses disciples, c'est Tite 1:5, « Je t'ai laissé en Crète, dit-il, afin que tu institues des églises dans les différentes villes. » Donc là aussi, de manière très précise, saint Paul a déjà transmis ses pouvoirs, et ensuite, eh bien, il demande même à ses successeurs de eux-mêmes transmettre leur propre pouvoir. Donc nous voyons cette nécessité qu'il y aura d'avoir une hiérarchie dans l'Église. On pourrait encore donner d'autres citations, mais ces quelques éléments suffisent pour être synthétiques. Alors, quels seront ces pouvoirs de cette hiérarchie qui se trouve nécessaire pour que l'Église puisse perdurer? L'Église étant une société, une famille spirituelle, comme dans toute société, il faut des chefs. Autrement, le but ne peut pas être atteint, car chacun ferait les choses à sa façon, et ça serait l'anarchie. Alors, il y a des pouvoirs particuliers que l'Église reçoit pour pouvoir accomplir sa mission qui est de conduire les âmes à la vie éternelle. Alors, on appelle ces trois pouvoirs le triple munus. Il y a un passage de saint Matthieu très précis sur ces trois pouvoirs que l'Église a à exercer. Matthieu 28:18-20. C'est les derniers versets de l'évangile de saint Matthieu, juste avant l'ascension de Jésus. Donc c'est vraiment son testament ultime. Le premier pouvoir, eh bien, est manifesté par ses paroles. Donc Jésus-Christ dit à ses apôtres, juste avant l'ascension, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Et ensuite, que doivent-ils faire? Eh bien, allez enseigner toutes les nations. premier pouvoir, on appelle ça le munus docendi en latin, c'est le pouvoir d'enseignement, aller enseigner toutes les nations. Donc on nous parle déjà d'une prédication nécessaire, prédication orale. C'est ce qui va donner ensuite la tradition de l'Église. Ensuite, que dit Jésus-Christ ? Aller enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Munus sanctificandi. Il leur demande d'aller baptiser, le baptême étant la porte des sacrements et de la grâce. Eh bien, tous les autres sacrements sont, de manière implicite, contenus dans ce pouvoir de sanctifier. Donc, non seulement les apôtres doivent enseigner, mais en plus, ils ont des moyens surnaturels pour pouvoir mettre en pratique l'enseignement reçu et avoir la force d'être fidèles au commandement de Dieu. Et ensuite, que dit Jésus-Christ ? Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai transmis. Donc, en plus, il faut montrer aux chrétiens comment agir. C'est ce qu'on appelle le munus regendi. Ça veut dire le pouvoir de diriger. Donc, les prêtres, les évêques n'auront pas seulement le pouvoir et le devoir d'enseigner et de sanctifier, mais en plus, ils doivent diriger les âmes. Donc, cela se fait par différentes lois qui vont faciliter la vie chrétienne. Par exemple, l'abstinence du vendredi, ne pas manger de viande le vendredi, c'est une loi ecclésiastique. Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui a institué cette loi. C'est l'Église qui a institué cette loi. Alors, pourquoi une telle loi ? C'est un exemple. Eh bien, c'est pour nous aider à mettre en pratique un commandement que Jésus-Christ avait donné, mais d'une manière générale. Jésus-Christ nous avait dit, eh bien, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Donc il y a le devoir de la pénitence, alors l'Église va, par certaines lois, nous aider à ne pas oublier ce précepte. Donc il y a l'abstinence du vendredi, il y a le jeûne parfois, et d'autres exercices qui vont nous permettre de mettre en pratique un commandement général que Jésus-Christ avait donné. Donc si l'Église fait des lois, ce n'est pas pour compliquer la vie, c'est pour nous aider à ne pas oublier certains préceptes divin. Voilà un exemple. Et puis un autre exemple, c'est bien sûr un titre plus personnel, la direction spirituelle, la fonction du curé, du prêtre dans une paroisse, qui doit connaître ses paroissiens pour pouvoir les aider à sauver leur âme. C'est tout à fait à l'opposé de ce tourisme spirituel qui bien sûr est favorisé par la crise, mais qu'il faut absolument combattre. Donc on va à la messe, non pas en fonction de notre paroisse, mais en fonction de la pluie, du beau temps, des vacances, etc. Eh bien non. L'esprit chrétien, c'est d'avoir une paroisse qui est une famille spirituelle en laquelle, eh bien, on est à notre place, en laquelle on est dirigé par le prêtre présent qui a charge de notre âme. Voilà donc, rapidement, ces trois pouvoirs que Jésus-Christ a donnés aux apôtres et donc qui se transmettent, comme on l'a montré, dans les actes des apôtres. Alors, ainsi, on termine cette première partie, ce premier aspect de la fondation de l'Église, c'est-à-dire fondation de l'Église par Jésus-Christ et ensuite application des principes donnés par Jésus-Christ par les apôtres. Alors, maintenant, une question qui peut se poser, eh bien, pour nous, c'est évident, peut-être, tout cela, cela fait un petit rappel, mais on aurait envie parfois de montrer à d'autres, justement, que Jésus-Christ a fondé une Église. Alors, comment va-t-on faire ? Comment va-t-on s'y prendre ? Parce que certains diront, eh bien peut-être, bon, l'Évangile, on n'est pas sûr que c'est vrai, et puis en plus, peut-être qu'il faut interpréter différemment, etc. Alors, pour répondre à cette question, je vais tout d'abord vous lire un très beau passage tiré de Saint Jean Chrysostome, docteur de l'Église en Orient, donc mort en 407, un des grands docteurs de l'Église d'Orient, qui a un petit traité intitulé « La divinité de Jésus-Christ » prouvé contre les juifs et les gentils. Donc le but de ce petit traité était de manifester justement que Jésus-Christ est Dieu et ensuite donc que son œuvre est divine. Cela rejoint à ce titre notre question, l'Église est-elle une fondation divine ? Alors, il va nous montrer un petit peu comment procéder pour manifester cette divinité de Jésus-Christ et de l'Église. Voilà donc un extrait. C'est avec les gentils, donc avec les païens, que j'engage d'abord le combat. Je suppose donc qu'un païen me dise « Où sont les preuves de la divinité de Jésus-Christ ? Car voilà ce qu'il faut établir d'abord, et ce point établi, tout le reste en découle. » Ni le ciel, ni le reste de la création ne pourront me servir à prouver cette vérité. En effet, j'aurais beau alléguer à mon adversaire païen que Jésus-Christ a créé le ciel et la terre et la mer, il ne l'admettra pas. Lui dirai-je que Jésus-Christ a ressuscité les morts, guéri les aveugles, chassé les démons ? Il n'y croira pas davantage. Lui parlerai-je du royaume céleste et des ineffables, bien que Jésus-Christ promette aux hommes ? Raisonnerai-je sur la résurrection ? Bien loin que ses arguments le convainquent, il ne fera qu'en rire. Par où donc alors le saisir pour l'amener à notre foi, surtout s'il est ignorant ? Par où sinon par un fait sur lequel lui et moi, nous soyons pleinement et incontestablement d'accord et sur lequel il n'existe aucune incertitude. Ce fait, encore une fois, ne peut être la création du monde, puisqu'il n'admet pas que Jésus-Christ en soit l'auteur. Quelle est donc l'œuvre qui, de l'aveu même du païen, a pour auteur Jésus-Christ ? Donc voilà la question. Qu'est-ce que l'on peut, de manière palpable, présenter à quelqu'un qui ne croirait pas en Jésus-Christ ? Comment peut-il y accéder ? Eh bien, la réponse que donne saint Jean Chrysostome est toute simple. C'est la fondation du christianisme. Et alors, il va développer un peu en nous disant « Ces églises établies sur toute la surface de la terre, à qui doivent-elles leur origine ? À Jésus-Christ. Personne ne saurait le nier, pas même un païen. C'est de ce fait que nous partirons pour montrer la puissance et prouver la divinité de Jésus-Christ. Est-ce un homme qui aurait pu, en si peu de temps, et malgré des oppositions de toute nature, pénétrer le monde de sa pensée, l'élever à de si grandes choses ? Quand ce monde était engagé depuis tant de siècles et si profondément dans l'erreur et le mal. Cette liberté des enfants de Dieu, il l'a rendue non seulement aux Romains, mais aux Perses et aux Barbares. Et il a réussi dans cette entreprise sans recourir aux armes, sans dépenser d'argent, sans mettre d'armée au mouvement, sans allumer de guerre, mais au moyen de 11 hommes sans nom, sans importance, illettrés, grossiers, pauvres, mal vêtus, sans armes, sans chaussures, n'ayant qu'une tunique. Voilà donc l'élément que constate saint Jean Chrysostome, donc au IVe siècle. Il y a des églises chrétiennes sur toute la terre, sur tout le monde connu. D'où viennent-elles ? Premier point, donc quelque chose que l'on peut constater. De plus, il considère les moyens utilisés pour la propagation du christianisme et puis les obstacles. Les moyens, donc il nous dit, eh bien, Jésus-Christ n'utilise pas d'armes, ni d'argent, ni de guerre, ni d'armes, ni de mille moyens humains. Mais au contraire, il va se servir de simples gens, ignorants, sans culture, sans argent, grossiers, pauvres, mal vêtus, etc. Donc vraiment une opposition très grande entre les moyens habituels utilisés par les hommes pour essayer de répandre une idée ou quelque chose, et les moyens utilisés Jésus-Christ, que Jésus-Christ a utilisés. Et alors, qu'a-t-il réussi à faire ? À quoi a-t-il réussi, nous dit saint Jean Chrysostome ? Eh bien, persuader aux hommes de tant de nations d'appliquer leur esprit, non seulement aux choses présentes, mais encore aux choses futures. De déchirer les lois paternelles, donc des lois très anciennes, que l'on trouvait dans l'Empire romain, d'extirper des coutumes très anciennes et très profondément enracinées, d'en implanter d'autres à leur place, de quitter un genre de vie commode pour embrasser les sévérités, les austérités de la loi évangélique. Voilà à quoi il a réussi, et cela pendant que de toutes parts on se déchaînait contre lui, et après avoir enduré le supplice infâme de la croix et une mort ignominieuse, personne n'osera le nier, les Juifs ont crucifié Jésus-Christ, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour arrêter son œuvre, et cependant l'évangile s'est répandu sur toute la terre. Il grandit chaque jour, et chose prodigieuse, ce n'est pas seulement ici qu'il fleurit, mais jusque dans la Perse qui donne présentement à l'Église des essaims de martyrs. Ces peuples que la prédication évangélique a trouvés plus féroces que des loups, il les a rendus plus doux que des agneaux. Et maintenant, ces barbares méditent sur l'immortalité de l'âme, sur la résurrection et sur les biens ineffables dont nous avons reçu l'espérance. Voilà, donc, après les moyens utilisés, non seulement les moyens sont infimes, ensuite il y a de très grands obstacles. Donc, les persécutions en particulier qui serviront pendant les trois premiers siècles du christianisme. En plus, comme obstacle interne à la doctrine prêchée, c'est l'exigence de la doctrine qui est bien sûr au-dessus de tout ce que les religions de l'époque et de plus tard peuvent demander. Et enfin, eh bien, les fruits de cette prédication, Saint Jean Chrysostome nous dit encore, ce n'est pas seulement dans les villes que ces succès ont été obtenus, mais jusque dans le désert, dans les villages, et dans les champs, et dans les îles, et dans les ports, et dans les arsenaux maritimes. Non seulement les pauvres, mais les grands, et ceux-mêmes qui portent des couronnes, sont les sujets très fidèles du crucifié. Voilà. Donc, les fruits, eh bien, cela touche tout le monde et partout. Donc, déjà là, on va pouvoir percevoir un peu cette action divine dans la propagation admirable de l'Église, en regardant justement l'opposition entre la faiblesse des moyens et les obstacles à surmonter, l'opposition entre l'exigence de la doctrine chrétienne, qui demande de combattre les passions désordonnées, qui demande le renoncement au monde, la mortification, la chasteté, l'obéissance, la pauvreté, la patience, l'humilité, toutes ces vertus contraires à ce que les hommes recherchent en général. Et les fruits, donc, partout, et toutes sortes de gens répondent à cet appel. Après Saint Jean Chrysostome, là je ne m'y arrête pas, fait de très beaux développements sur les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient justement ce Messie qui allait être si puissant par des moyens justement si infimes. Donc là, tout le traité serait à lire, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Alors, pour illustrer un petit peu cette propagation extraordinaire de l'Église, juste quelques chiffres très rapidement. Eh bien, à la mort de Jésus-Christ, donc extérieurement, on a l'impression évidemment que l'Église a disparu. Les quelques disciples qu'il avait suivis encore ces derniers jours, eh bien, l'abandonnent. Et ils se retrouvent enfermés dans une pièce, dans une maison à Jérusalem, remplis de crainte, de tristesse, de désespoir. Donc vraiment, humainement parlant, c'est fini. 50 jours plus tard, la Pentecôte, eh bien, voilà là un début miraculeux, une renaissance miraculeuse de l'Église, si on peut dire, 3 000 à 4 000 conversions en une journée, grâce à la prédication de Saint-Pierre, tout le monde l'entend parler en langue. En an 60, l'histoire nous montre qu'il y a des groupements chrétiens sur toute la bordure de la Méditerranée, excepté encore en Afrique du Nord. Bien sûr, il faut considérer qu'à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas aussi pratiques qu'aujourd'hui, donc c'est d'autant plus admirable qu'en 30 ans, tout le monde connu dans l'Empire romain eh bien, est déjà touché par le christianisme. En l'an 112, un écrivain nommé Pline le Jeune signale à Trajan, à l'empereur, qu'en Bithynie, les chrétiens pullulent. Il utilise cette expression. Suétone et Tacite, deux autres auteurs, parlent de nombreux chrétiens qui périrent dans les persécutions. Au IIe siècle, donc un siècle plus tard, tout le littoral méditerranéen est atteint par l'évangile qui pénètre à l'intérieur des terres. Donc avant, c'était surtout le bord de mer, évidemment, c'était plus facile d'accès. Mais après, le siècle suivant, ça peut vraiment s'enfoncer dans les terres. Et en 314, une année après la paix d'Église, obtenue par Constantin le Grand, avec l'édit de Milan en 313, eh bien, on a environ 800 à 900 évêques en Orient et 600 à 700 évêques en Occident. Donc, un évêque, en général, n'est pas un ermite perdu sur une île déserte, c'est le chef d'une grande communauté chrétienne. Alors, s'il y a déjà environ 1500 évêques entre l'Orient et l'Occident, eh bien, cela manifeste de nombreuses chrétientés répandues partout. Et cela est d'autant plus admirable que durant ces trois premiers siècles, eh bien, il y a, vous le savez, 10 grandes persécutions qui essayent de faire disparaître le christianisme. Et on prend toujours le prétexte que les chrétiens sont coupables lorsqu'il y a des calamités pour essayer de les faire disparaître. On compte environ sur ces années qui vont de l'an 60 à peu près à 313, donc en moins de 300 ans, on compte environ 129 ans de persécution et 120 ans de paix. Donc plus de la moitié du temps, durant les trois premiers siècles, est marquée par les persécutions sanglantes, où les chrétiens, bon, de manière plus ou moins violente, sont poussés à renier leur foi. Alors à ce titre, cette propagation de l'Église durant les trois premiers siècles, saint Augustin, qui vit au IVe siècle, a une parole très synthétique qui manifeste ce miracle de la propagation de l'Église malgré les obstacles. en disant ceci. Eh bien, soit il y a eu des miracles évidents qui ont été opérés pour la conversion du monde, et alors le christianisme est divin et approuvé par Dieu. Donc première possibilité pour un tel résultat, soit il y a eu d'immenses miracles évidents pour tous, et cela a permis d'avoir cette conversion du monde. Soit alors, il n'y a pas eu de miracles, et la conversion du monde est alors le plus grand des miracles, parce que contraire aux lois de l'ordre moral. Donc de toute façon, qu'il y ait eu des grands miracles ou qu'il n'y en ait pas eu, la conversion du monde est le plus grand des miracles. C'est une façon de synthétiser un peu cet aspect donc, du développement extraordinaire de l'Église durant les premiers siècles. Alors, pour illustrer encore un peu cela, un nouvel extrait de Saint Jean Chrysostome qui montre encore justement cette divinité qui transparaît à travers la propagation de l'Église. Saint Jean Chrysostome qui nous dit « Un tel résultat n'a rien d'humain, tant que vivent les grands hommes, leurs affaires prospèrent, viennent-ils à mourir, tout s'évanouit avec eux. Ce spectacle, le riche, le prince, l'empereur même nous le donne à leur mort. Alors leurs lois sont abrogées, leurs images voilées, leur mémoire éteinte, leurs noms livrés à l'oubli, leurs clients méprisés. Tout à l'heure, ils étaient à la tête des armées, peuple, ville, institution, ils pouvaient tout changer d'un signe. Ils étaient maîtres d'ôter la vie, libres de la rendre aux condamnés, marchant déjà au supplice. Et de toute cette grandeur, il ne reste plus rien. » Donc Saint Jean Chrysostome observe ce qui se passe pour les grands hommes du monde. Eh bien, durant leur vie, ils arrivent à avoir une très grande puissance, tout est à leur service, ils font ce qu'ils veulent. Mais une fois qu'ils disparaissent, eh bien, on se partage leurs dépouilles et on les a très vite oubliés. Et par contre, que se passe-t-il pour Jésus-Christ? Eh bien, pour Jésus-Christ, cet ordre est renversé. Avant le supplice de la croix, il ne lui arrive rien que de triste. Judas le trahit, Pierre le renie et les autres prennent la fuite. Resté seul, ses ennemis le lient et un grand nombre de ceux qui avaient cru en lui se retirent. Mais la victime a été immolée, alors pour qu'il soit bien évident que ce crucifié n'était pas un pur homme, son œuvre prend une face infiniment meilleure, elle fleurit et grandit à la manière la plus étonnante et la plus glorieuse. Avant le supplice de la croix, le chef du cœur apostolique succombe à la menace d'une portière et après une si longue initiation, déclare qu'il ne connaît pas son maître. Après le supplice de la croix, il parcourt le monde entier et dès lors des foules innombrables de martyrs se laissent égorger, aimant mieux mourir que de répéter la parole arrachée par la peur au prince des apôtres et par la menace d'une portière. Dès lors, dans toutes les contrées, dans toutes les villes, dans la solitude, dans les lieux habités et déserts, nous proclamons le crucifié. Sur toute cette vaste étendue de terre visitée par le soleil, rois, généraux, princes, consuls, hommes libres, esclaves, ignorants et sages, insensés, barbares, tous invoquent le nom de Jésus-Christ et l'adorent. Voilà donc le contraste entre les grands de ce monde et Jésus-Christ. Et Saint Jean Chrysostome montre que cela se réalise ensuite dans ses disciples. On aurait pu penser, bon ben, une fois que Jésus-Christ est glorifié, eh bien, ses disciples devraient tous être glorifiés. Eh bien non. Chose incroyable, ce qui était arrivé au maître s'est reproduit pour les disciples vivants. Ils ont été emmenés de force, donnés en spectacle, méprisés, enchaînés, assujettis à mille maux. Morts, ils ont été comblés de plus d'honneur que les empereurs mêmes. Comment cela? Le voici. Dans la ville impériale, à Rome, les tombeaux du pêcheur, donc de Saint-Pierre, et du fabricant de tentes, de Saint-Paul, attirent plus que tout autre monument et les empereurs et les conciles et les généraux. À Constantinople, ceux qui portent la couronne s'estiment heureux d'avoir leur sépulture, non auprès des apôtres, mais en dehors et sur le seuil de la basilique. Ainsi, les empereurs sont désormais les portiers des pêcheurs, et à leurs yeux, aux yeux même de leurs descendants, ce n'est pas une honte, mais un honneur pour leurs cendres. Voilà, donc, ce qui illustre un peu cette gloire de la divinité de l'Église, avec des contrastes vraiment inexplicables de manière humaine, ou du moins difficilement explicables de manière humaine. Voilà donc cette deuxième partie qui s'achève, donc le développement de l'Église qui manifeste l'action de Dieu à travers elle. Alors maintenant, à notre époque et en tout temps, est-ce que l'Église fondée par Jésus-Christ a des caractères particuliers qui permettent de la discerner de manière infaillible par rapport aux fausses religions? Alors c'est un point important qui est un rappel de catéchisme, mais qui est très beau à considérer.
C'est ce que l'on appelle les notes de l'Église. Alors on le chante dans le credo tous les dimanches, on les connaît tous par cœur, mais on oublie peut-être parfois la portée de ces quatre notes. Donc la tradition nous enseigne, et en particulier le credo, donc qui est très ancien, que l'Église a des signes qui permettent de la distinguer des autres religions. Alors, par exemple, le Concile Vatican Ier, qui s'est tenu à Rome en 1870, nous dit ceci. Eh bien, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition de ses fils, personne jamais ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. Mais pour que nous puissions satisfaire au devoir d'embrasser la vraie foi et de persévérer constamment en elle, Dieu, par son Fils unique, a institué l'Église et l'a pourvue de marques évidentes de son institution, afin qu'elle puisse être reconnue par tous comme la gardienne et la maîtresse de la parole révélée. Il est nécessaire que l'Église puisse être reconnue sans erreur, justement parce que sans elle, on n'a pas la foi, et que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Donc Jésus-Christ ne nous demande pas l'impossible, il nous donne des moyens de découvrir l'Église. Alors, c'est à l'Église catholique seule que se réfèrent tous ces signes si nombreux et si admirables disposés par Dieu pour faire apparaître avec évidence la crédibilité de la foi chrétienne. Bien plus, l'Église, à cause de son admirable propagation, dont on a parlé, de son éminente sainteté et de son inépuisable fécondité en tout bien, à cause aussi de son unité catholique et de son invincible fermeté, est par elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfutable de sa mission divine. Donc il y a des notes internes, intrinsèques à l'Église, ce sont ces quatre notes, et encore des manifestations extérieures dont on a parlé juste avant. Alors la première note, c'est l'unité, et unam ecclesiam. Alors que signifie l'unité et comment se réalise-t-elle? Eh bien l'unité de l'Église est bien sûr fondamentalement une unité de foi et de culte. Il y a en saint Paul aux Éphésiens 4:5 cette parole « Una fides, unum baptismum, unus dominus ». Une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Cela manifeste les trois éléments de l'unité. Donc la foi, qui est vraiment fondamentale. Ensuite, baptismum, à nouveau, le baptême signifie la grâce, donc le culte, les sacrements, culte public. Et puis, autorité, unus dominus, un seul Seigneur qui se prolonge par ses successeurs. Alors, un des problèmes de notre époque, c'est évidemment qu'il y a la crainte d'être coupé de l'unité de l'Église. C'est la grande menace qui plane toujours sur ceux qui veulent être fidèles à la foi. Alors, qu'est-ce qui prime? Vaut-il mieux être avec une autorité, même si la foi est en danger? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux d'abord garder la foi, malgré une autorité qui défaille? Eh bien, c'est évident, la foi est une vertu théologale, elle a donc la priorité sur les vertus morales, dont fait partie par exemple l'obéissance. Donc si l'autorité, au nom de l'obéissance, nous demande quelque chose qui met en danger une vertu supérieure, comme la foi, eh bien, il ne faut pas la suivre parce que l'autorité n'accomplit pas sa tâche, c'est tout simple. Mais malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Donc le but de l'autorité, eh bien, c'est d'être au service de la foi, c'est pas le contraire. Alors tant que l'autorité favorise la vraie foi, eh bien, il est normal et nécessaire de lui obéir. Si elle ne fait plus cela, eh bien, elle n'exerce plus sa fonction et donc il n'y a plus de devoir d'obéissance. Le culte, quelle est sa place? Eh bien, le culte aura pour mission, justement, aussi ce lien avec la foi. Il y a cet adage célèbre, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. On va prier comme on croit. Si on change la liturgie, eh bien, il y a un risque que l'on croit autre chose après. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc là aussi, le fait d'être attaché à un culte unique, c'est pour la préservation de la foi. Donc tout est, disons, orienté à la transmission de la foi. Et à notre époque, eh bien, il est facile de voir que la véritable unité de l'Église brille, non pas forcément dans la hiérarchie qui défaille, mais là où la foi et le culte sont tout à fait conformes à la volonté de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que l'autorité forcément n'existe plus, mais il y a des circonstances où elle détourne de la foi. Donc dans ces cas-là, eh bien, il ne faut plus la suivre. Cela ne veut pas dire forcément que le pape n'est plus pape, que, etc. Pas forcément, ça serait trop hâtif comme conclusion. Mais en attendant, la foi prime sur l'obéissance quand elle est en danger. Donc, aspect très important qui permet de discerner où se trouve la véritable Église. Et d'une manière plus localisée, si l'on peut dire, cette unité de l'Église doit aussi briller dans chaque communauté chrétienne. Parce qu'on va dire, c'est bien joli, bon, ben, je suis uni à Rome, je suis uni à mon évêque, mais l'évêque du diocèse, on ne le voit pas tous les jours, le pape encore moins. Donc, comment percevoir cette unité de l'Église? Eh bien, ça sera dans chaque communauté chrétienne. Et là, chacun a un rôle important à jouer, car de chacun d'entre nous dépend le fait que cette note de l'Église brillera dans notre paroisse ou pas. Comme on le disait tout à l'heure, on est membre d'une famille spirituelle, et donc chacun a un rôle important à y jouer. La paroisse n'est pas seulement un lieu où on vient chercher des sacrements, où l'on part dès que c'est fini, mais il y a des liens nécessaires entre les différents membres de cette communauté. Si déjà dans une famille, il y a des liens, eh bien plus forte raison dans une famille spirituelle, car les liens spirituels sont beaucoup plus forts que les liens du sang, puisqu'ils sont éternels. Donc, chacun à sa place doit faire en sorte que cette unité de l'Église brille, donc par les liens de charité, par la vie commune, par la prière commune aussi, l'importance de la prière publique, donc la messe, mais même les autres offices de piété qui ont lieu dans nos paroisses, eh bien, nous avons tous à y participer dans la mesure du possible pour, justement, réaliser, mettre en lumière cette note de l'unité de l'Église. Deuxième note, sainteté de l'Église. Alors ça, c'est aussi un aspect très important pour notre époque, parce que là, il y a aussi souvent une attaque facile contre l'Église, qu'il est autant facile à démonter si l'on retient le principe que je vais donner. Alors, le principe est le suivant. Pourquoi l'Église est-elle sainte? Alors, premièrement, bien sûr, parce que son fondateur est saint, ce qui n'est pas du tout le cas des autres religions. Pour la plupart, il suffit de regarder la vie du fondateur, que ce soit Luther, Calvin, Mahomet ou autre. Eh bien, c'est en tout cas pas des saints, ou alors même s'ils ne sont pas trop mauvais, eh bien, c'est pas des modèles de perfection humaine. Par exemple, Mahomet, qui déjà permet d'avoir 4 femmes, qui en avait 25 lui-même, c'est pas un modèle de perfection humaine. Normalement, le chef doit être au moins aussi parfait que les sujets, et normalement plus. Donc, la sainteté ne brille qu'en Jésus-Christ. Et déjà, donc, le fait de regarder qui a fondé les autres religions permet déjà, en général, de les éliminer très vite. Alors, maintenant, le principe important pour les problèmes actuels, c'est le suivant. La sainteté de l'Église, eh bien, après être sainte en son fondateur, eh bien, elle est sainte en ses principes, en sa doctrine. Et enfin seulement, elle est sainte en ses membres. Ça, c'est très important, ces deux aspects de la sainteté de l'Église. Parce que vous avez tous entendu, plus d'une fois, eh bien, l'Église est mauvaise, l'Église n'est pas bonne, l'Église n'est pas sainte, parce qu'il y a eu les croisades, parce qu'il y a eu des massacres dans tel endroit, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Alors, c'est inverser ces deux principes, et c'est les confondre. La sainteté de l'Église se trouve en ses principes toujours et partout. Ces principes sont divins, il n'y a aucune erreur en les principes de l'Église. Par contre, elle est sainte en ses membres à divers degrés. Et puis elle n'est pas sainte en tous ses membres, car là, il y a la liberté humaine qui demeure. Quelqu'un qui est baptisé devient membre de l'Église, mais il n'est pas saint tout de suite du premier coup. Quelqu'un qui fait un péché mortel, il perd la grâce de Dieu, mais il reste membre de l'Église tant que ce péché n'est pas contraire à la foi. Donc, il peut y avoir des membres qui sont de grands pécheurs, mais cela ne nuit pas à la sainteté de l'Église. Car la sainteté de l'Église est principalement en ses principes. Ça veut dire que si tous ses membres mettent en pratique parfaitement ses principes, ils seront tous saints. Mais ce n'est pas l'inverse. Donc, lorsque l'on dit, eh bien, l'Église a fait ci, a fait ça, eh bien, il ne faut pas dire l'Église a fait ci. Il faut dire si tel membre de l'Église avait mis en pratique les principes de l'Église, eh bien, il n'y aurait pas eu ci, il n'y aurait pas eu ça.
Voilà. Et l'objection est résolue même si on ne connaît pas les événements particuliers. Il suffit de connaître la foi. On nous dit, ben voilà, ils ont, en allant en croisade, ils ont tué beaucoup de monde sur leur chemin, sans raison. Alors, que disent les principes de l'Église? Eh bien, tu ne tueras pas. Sauf, bon, la légitime défense, etc. Voilà, tu ne tueras pas. Bon. Est-ce qu'ils ont mis en pratique ces principes? Non. Donc, il ne faut pas accuser l'Église. Ensuite, ils ont volé beaucoup de choses, ils ont fait des cambriolages, ils ont pillé tout sur leur chemin. Que dit l'Église? Tu ne voleras pas. Est-ce qu'ils ont mis ça en pratique, les membres dont vous parlez? Non. Donc, eh bien, c'est leur faute, etc. Je caricature un peu, je synthétise pour illustrer la chose, mais c'est très important. Parce que souvent, on peut être pris au piège, et puis on ne sait pas quoi répondre. Eh bien non, il ne faut pas mettre sur le dos de l'Église les actions de ses membres qui ne correspondent pas à ces principes. Encore une fois, si un membre de l'Église met en pratique tous les principes que l'Église lui donne, donc les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les vertus, etc., les sacrements, les grâces, eh bien, il atteindra la sainteté. Et on ne pourra rien trouver de reprochable en sa conduite. Voilà, donc un élément très important aujourd'hui à retenir. Et là aussi, la sainteté doit briller, eh bien, par nous. Parce que si les gens veulent pouvoir toucher cette sainteté du doigt, eh bien, il faut qu'ils puissent la voir briller en nous. On a aussi une responsabilité très grande à ce titre, à notre époque. Parce que justement, il y a tellement de scandales dans l'Église que si aussi dans nos paroisses, dans nos familles, eh bien, il n'y a pas la sainteté, eh bien, il manque une des quatre notes et l'Église disparaît. Voilà. Bon, l'Église durera jusqu'à la fin des temps, mais nous avons tous notre place à jouer. Unité, sainteté, catholicité. Alors, catholique vient du grec, veut simplement dire universel, donc ça veut dire que l'Église a été fondée par Jésus-Christ pour tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Donc c'est contraire à l'œcuménisme qui dit qu'il faut respecter les croyances de chacun, etc. Donc là, aussi, la catholicité, tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Jésus-Christ a dit aller enseigner toutes les nations, il n'y a pas d'exception. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Et enfin, apostolicité. Eh bien, il y a trois éléments dans l'apostolicité. Tout d'abord, cela veut dire que les premiers chefs de l'Église étaient les apôtres, tout simplement, et non pas de nouveau Luther, Calvin, Mahomet ou autres. Donc les apôtres étaient les premiers chefs de l'Église, choisis par Jésus-Christ. Ensuite, cela veut dire que l'Église enseigne la doctrine des apôtres, donc s'il y avait une rupture dans la tradition, eh bien, elle perdrait cette note d'apostolicité. Et enfin, que l'Église... Un petit blanc. Le catéchisme vert est très bien fait. Voilà, évidemment, bien sûr, parce qu'elle est gouvernée par les successeurs des apôtres. Donc, si... Il y avait dans la chaîne qui relie un prêtre ou un évêque aux apôtres, et bien s'il y avait un échelon qui manque, et bien il n'y aurait plus l'apostolicité. Par exemple, les anglicans, après avoir eu ces problèmes avec Rome au XVIe siècle, au temps d'Henri VIII, et bien ont fait de nouveaux rites pour le sacrement de l'ordre. Et donc, on voit que ce sacrement de l'ordre était invalide. Donc il n'y a plus de succession apostolique, les pouvoirs ne se sont plus transmis. Même si après coup, ils sont revenus à un rite plus convenable, eh bien, l'apostolicité était interrompue, parce qu'il faut que les pouvoirs se transmettent d'un évêque à l'autre jusqu'à la fin des temps. Si on coupe un échelon, eh bien, ça ne marche plus. Pour l'Église romaine, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour les papes, eh bien, on a la liste de tous les papes depuis Saint-Pierre, on en est au 264e, eh bien, il y a cette apostolicité ininterrompue. Succession de papes sur le même siège. Et cela vaut pour tous les évêques aussi. Chaque évêque a reçu ses pouvoirs d'un autre évêque, etc. Et on peut remonter la chaîne. On n'a pas forcément pour chaque évêque tous les échelons, parce que les documents manquent pour certaines époques, mais enfin, ça s'est transmis de manière fidèle, donc il n'y a pas de risque. Mais il y a d'autres sectes qui se disent chrétiennes, qui tout à coup apparaissent avec quelqu'un, là, qui a une révélation. Je ne sais pas, les témoins de Jéhovah, les mormons, voilà, ils ont une révélation d'un tel, et ils fondent une église. Eh bien, il n'y a pas l'apostolicité. Et une coupure. Alors ils prétendent que voilà, il y avait des périodes un petit peu d'apostasie ou autre, et bien ça ne tient pas. Il manque une de ces notes indispensables à l'Église. le Père Emmanuel, dans ce très beau livre sur la Sainte Église, nous résume cette nécessité de la mission, donc de cette succession apostolique, par ces mots. L'hérésie est nouvelle, on voit le point où elle commence. C'est une œuvre humaine, elle est marquée d'un nom d'homme dont elle ne peut se débarrasser. Arianisme, nestorianisme, luthéranisme, elle débute par une scission, par une rupture. Dès lors, elle est jugée avant que d'être entendue, il lui manque la mission. Enfin, le temps l'emporte, comme il l'avait apporté, ou s'il lui laisse un nom, ce n'est plus qu'un nom sous lequel s'abrite une pure négation. Voilà, donc une hérésie est toujours quelque chose qui apparaît comme ça, sans continuité avec la doctrine des apôtres ou avec les successeurs des apôtres. Voilà donc ces quatre notes, et elles sont nécessaires, les quatre ensemble, pour que l'on puisse discerner la véritable Église. S'il en manque une, ce n'est plus l'Église, c'est sûr. Alors, c'est très important pour tous les temps de l'Église. Alors maintenant, dernier élément, est-ce que l'Église va durer jusqu'à la fin des temps, ou bien est-ce qu'elle peut un jour disparaître? Alors, tout d'abord, une citation de l'Écriture sainte, la Révélation, c'est toujours dans ce passage de la fin de l'Évangile de saint Matthieu, après avoir donné ces trois pouvoirs aux apôtres dont on a parlé, Jésus dit « Voici que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Donc Jésus-Christ est tous les jours avec ses apôtres. Alors ses apôtres, ils sont morts bientôt. Ils sont morts avant la fin des siècles. Donc, dans les apôtres sont contenus les successeurs des apôtres. Donc Jésus-Christ se trouve avec les apôtres et avec leurs successeurs tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Donc tous les jours, sans interruption, jusqu'à la fin du monde, l'Église doit durer. Premier élément. Alors, objection à cela, on trouve dans l'Évangile ces paroles de Jésus-Christ qui nous dit « Eh bien, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai encore la foi ?» Alors comment répondre à une objection pareille? Eh bien tout d'abord, il faut préciser que c'est là une question, ce n'est pas une affirmation. Donc c'est une question, mais pour donner un auteur qui développe un peu cet aspect, je vais citer Bossuet, qui a une série d'ouvrages intitulés « Les variations des églises protestantes ». Il y a quatre volumes comme ça, où il montre pour le protestantisme, justement, déjà l'instabilité du protestantisme est un signe que ce n'est pas voulu par Dieu. Et alors, dans ce livre, il a un passage sur l'Église catholique, où il va justement traiter de cette parole de Jésus-Christ, « Quand je reviendrai, eh bien, trouverai-je encore la foi ?» Alors, si on voulait répondre de manière affirmative que la foi n'existerait plus, eh bien, Bossuet nous dit, eh bien, prouvez du moins qu'il y a un mot dans l'Évangile qui marque l'extinction de la saine doctrine et la victoire de l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'Écriture sainte, dans la Révélation? Quelque chose qui montre qu'à un moment, eh bien, la saine doctrine disparaîtrait. Eh bien, répondez du moins à quelle Église reviendront les Juifs si l'Église de Jésus-Christ est enseveli. Donc voilà, premier élément, l'Écriture sainte, saint Paul, nous disent que à la fin des temps, les Juifs se convertiront, reviendront à l'Église. Donc, si les Juifs doivent revenir à l'Église, il faut que l'Église existe encore. Premier argument. Ensuite, autre passage tiré de l'Écriture sainte, où l'on nous dit, eh bien, à la fin des temps, la trompette ramassera les élus des quatre vents. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas répandus par toute la terre, ou si le nombre en est si petit, à qui dit-on « Levez la tête quand ces choses commenceront parce que votre rédemption approche ?» Donc, la trompette doit réunir les élus des quatre vents. Donc, ça signifie qu'ils seront sur toute la terre. Et donc, l'Église non seulement existera encore, mais elle aura toujours cette catholicité à la fin des temps. Deuxième argument. Ensuite, troisième élément, est-ce à des invisibles, à des inconnus, que Dieu laissera sans église, sans société, sans sacrement, sans pasteur? Il n'y aura plus de prédication, plus de baptême, plus d'eucharistie, et ce mystère où, selon saint Paul, on annoncera la mort du Fils de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne, aura-t-il cessé avant sa venue? Donc saint Paul dit dans son épître aux Corinthiens, lorsque l'on fait l'eucharistie, on annonce la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc l'Eucharistie est le mystère qui renouvelle la passion, le sacrifice de Jésus-Christ, et qui est un souvenir de sa mort. Donc si on doit annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne par l'Eucharistie, il faudra que la messe soit célébrée aussi jusqu'à la fin du monde. Donc là aussi, cela nous manifeste que l'Église gardera son culte jusqu'à la fin du monde. Bon, ça peut être de manière cachée dans des catacombes ou autres, sous la persécution, mais en effet, en tout cas, l'Eucharistie, la messe, d'après cet élément, eh bien, semble-t-il, sera célébrée jusqu'à la fin du monde. Donc l'Église garde sa catholicité, son unité de foi, de culte, l'apostolicité, évidemment, et puis la sainteté, ben, ses principes ne changent pas, donc il reste aussi. Encore un élément que rapporte Bossuet. Où l'Antéchrist trouvera-t-il ceux qu'il tâchera de séduire et qu'il persécutera par toute la terre à toute outrance, si l'on ne sait où ils sont? Ne pourra-t-on plus pratiquer ce commandement de Jésus-Christ? Dites-le à l'Église. Voilà, donc l'Antéchrist doit venir pour séduire les bons. Eh bien, s'il y a encore des bons, c'est que l'Église existe encore. De plus, Jésus-Christ nous dit que s'il y a un problème, il faut recourir à l'Église. Donc là aussi, s'il nous donne un commandement, il faut pouvoir le mettre en pratique. Et ainsi de suite. Voilà, donc Saint Paul, l'Écriture sainte, les pères de l'Église nous manifestent que l'Église aura toujours des saints, parce que toujours et partout on y prêchera la doctrine sainte. La marque pour connaître cette Église, c'est la succession des pasteurs sans interruption en remontant jusqu'aux apôtres. Les vices y abonderont comme Jésus-Christ l'a prédit, et quoi que vous puissiez dire, la merveille sera toujours qu'ils ne la pourront éteindre ni cacher, puisque toujours elle enseignera et que Jésus-Christ sera toujours avec elle. Donc, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Alors ça, c'est bon à savoir, parce que justement, même en une époque comme la nôtre, eh bien, on est certain que l'Église triomphera et durera jusqu'à la fin des temps. Alors il n'y a pas de souci à se faire, eh bien, le bon Dieu protégera son Église. Et ça, c'est vraiment fondamental, car certains vont pouvoir se décourager, certains vont commencer à chanceler dans leur foi, ou alors ils vont avoir une peur excessive de la fin du monde, etc. Eh bien, tout ça, ça ne sert de rien. L'Église a les promesses de la vie éternelle. Donc, nous avons vu, par ces différents aspects, donc fondation de l'Église par Jésus-Christ, application des principes par les apôtres, propagation admirable de l'Église, quatre notes de l'Église, durée de l'Église jusqu'à la fin des temps, que l'Église est vraiment divine. C'est une fondation divine et non pas une invention humaine. Et donc, c'est elle qui a les promesses de la vie éternelle pour elle-même et pour nous et pour tous les hommes. Voilà, je vais conclure ainsi. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien tout est clair? On pourrait développer encore beaucoup, bien des aspects, mais en une heure, il faut être très concis pour pouvoir faire le tour. Oui?
Est-ce qu'on peut dire donc jusqu'à la fin des temps, si on veut, la messe de Saint-Pie V sera toujours valable.
Alors,
elle existera toujours.
D'après le passage de Saint-Paul que l'on a cité, il faut que l'Eucharistie soit célébrée. Donc, qu'elle soit célébrée de manière valide, mais aussi de manière digne. Alors, la messe de Saint-Pie V est un moyen très digne de la célébrer. En soi, ça ne serait pas impossible d'avoir un autre rite. D'ailleurs, il y a d'autres rites qui sont aussi dignes et valides. En Orient, par exemple. Donc là, de vouloir conclure que la messe Saint-Pie V, telle qu'elle, dure, ça serait, disons, aller trop loin par rapport à cette citation de l'Écriture sainte, mais c'est probable quand même, parce que bon, elle a aussi ses promesses, ses privilèges donnés par Saint-Pie V lui-même, qui voulait qu'on la célèbre ainsi jusqu'à la fin des temps. Donc normalement, les chrétiens fidèles sont censés être fidèles justement à ces principes donnés par Saint-Pie V. Donc on peut penser que, en tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir un grand remaniement, parce que c'est un rite qui vient des apôtres, dans l'essentiel, qui a été sanctifié par les siècles, embelli par les siècles. Donc, a priori, c'est ce rite qui reste. De toute façon, ça ne peut pas être la nouvelle messe, parce que la nouvelle messe est mauvaise en soi. Elle n'atteint pas les deux buts d'un rite, qui sont, d'une part, de manifester la foi, et d'autre part, de faciliter la piété. Donc la nouvelle messe n'est pas forcément invalide, puisqu'il y a les trois éléments nécessaires au sacrement, matière, forme, intention, ministre. Mais elle n'est pas digne de Dieu, parce qu'elle ne manifeste pas la foi de manière suffisante, et puis elle ne favorise pas la piété. Au contraire, elle favorise le manque de respect. Donc la nouvelle messe, en tout cas, elle ne doit pas durer indéfiniment. C'est pas ça qui pourrait remplacer la messe de Saint-Pie V. Et puis de vouloir changer un rite de manière notable, c'est non plus pas dans l'esprit de l'Église, parce que la stabilité est nécessaire justement à cette unité de foi et de culte. À partir du moment où on change, eh bien, cela n'est pas en faveur de la foi en général. On peut améliorer, si l'on peut dire, un rite, mais le changer complètement, ce n'est pas dans l'ordre, quoi. Ça ne s'est jamais fait d'ailleurs. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
On ne peut pas dire en ce moment que l'Église est en train de vivre la passion.
Alors voilà, ça oui, beaucoup d'auteurs spirituels considèrent que l'Église doit reproduire d'une certaine manière ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Donc il y a des périodes plus glorieuses que d'autres. Et là, évidemment, ça peut correspondre à la passion de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une analogie, mais on ne peut pas vraiment aller jusque dans les derniers détails, par exemple sur la durée des périodes, etc. Qu'elle reproduit ce que Jésus-Christ a fait, ça c'est un enseignement commun des auteurs spirituels, des pères. Mais maintenant, de quelle manière, pour combien de temps, ça c'est plus difficile à dire.
Ça peut être typique, ça ne veut pas dire qu'on arrive au bout.
Alors, bon, on nous parle quand même de certains éléments qui seront bien plus terribles que tout ce qu'il y a eu pendant le reste de l'histoire. On nous parle de cette grande apostasie, on nous parle de l'antéchrist, etc. Donc, ces éléments dont déjà l'Écriture sainte parle, eh bien, doivent certainement correspondre à ce qui représenterait la passion de Jésus-Christ. Ça, c'est... On nous parle aussi donc du retour d'Élie et d'Enoch à la fin des temps, etc. Donc, qui eux-mêmes reproduiraient aussi un peu ce que Jésus-Christ a vécu, donc une période glorieuse où ils seraient inatteignables même par l'antéchrist, et puis une fois qu'ils ont accompli leur mission pendant trois ans et demi, d'après les Écritures, eh bien ils seraient aussi martyrisés, mis à mort, et puis ensuite ressuscités. Enfin, il y a aussi une similitude même dans les apôtres des derniers temps, enfin, spécialement Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, donc les deux qui ont été... Élie enlevé dans un char de feu, et puis l'autre, on ne connaît pas sa mort, il est... L'Écriture, l'Ecclésiastique nous dit qu'il est... Il a été conservé en vie, à quelque part, dans un lieu inconnu. Donc il y a une similitude. Maintenant, on peut, dans l'application concrète, c'est plus difficile à faire. Quoi.
Elle ne nous oblige pas à rester dans ses
mains. Ah ben, dans des périodes de persécution, on n'est pas tenu d'aller se jeter dans les bras des bourreaux. Il faut se protéger, ça c'est sûr. Il y a des fois des inspirations spéciales du Saint-Esprit. C'est arrivé dans la vie des martyrs. Mais d'une manière générale, en période de persécution, il faut... Parfois, se cacher un peu, ça peut arriver. Là aussi, il y a des éléments dans l'Écriture sainte, je ne connais pas assez profondément ce sujet pour trop m'avancer, mais il y aura des périodes où l'Église peut être d'une certaine manière cachée, hein, comme ça l'était durant les persécutions, où elle était là, les quatre notes étaient présentes, mais pas d'une manière aussi glorieuse qu'à partir du IVe siècle. Quoi. Ça, c'est tout à fait possible. On nous dit dans l'Écriture sainte qu'il faudra fuir dans les montagnes, etc., donc on nous parle un peu d'une fuite quand même. Mais bon, ça faudra voir. Il y a des signes de toute façon qui seront perceptibles en temps voulu. Et puis aussi bon, l'assistance du Saint-Esprit qui aidera à faire ce qu'il faut pour rester fidèle. Voilà. On est bon. Il est 9h précise. Alors... On peut se lever, faire une petite prière. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.